Chapitre 3 Cecilia. Mais il était écrit au livre de ma destinée que je retrouvais Celio sur mon chemin. J'approche de la loge de Cecilia, je frappe, on vient m'ouvrir. Et au lieu du visage doux et mélancolique de la cantatrice, c'est la figure enflammée du débutant qui m'accueille, d'un regard méfiant. Et de cette parole insolente, que voulez-vous, monsieur? Oh, je croyais frapper chez la signora Boccaferri, répondis-je. Elle a donc changé de loge. Non, non, c'est ici, me cria la voix de Cecilia. Entrez, signor Salentini, je suis bien aise de vous voir. J'entrai, elle quittait son costume derrière un paravent. Celio se rassit sur le sofa. Sans me rien dire et même sans daigner faire la moindre attention à ma présence, il reprit son discours au point où je l'avais interrompu. À vrai dire, ce discours n'était qu'un monologue. Il procédait même uniquement par exclamations et malédictions, donnant au diable ce lourd et stupide parterre d'allemands, ces buveurs aussi froids que leur bière, aussi incolores que leur café. Oh, l'éloge n'était pas mieux traité. Mais je sais que j'ai mal chanté et encore plus mal joué, disait-il à Boccaferri, comme pour répondre à une objection qu'elle lui aurait faite avant mon arrivée. Mais soyez donc inspiré devant trois rangées de sots diplomates et d'affreuses douairières. Ah, maudite soit l'idée qui m'a fait choisir Vienne pour le théâtre de mes débuts. Nulle part les femmes ne sont si laides, l'air si épais, la vie si plate et les hommes si bêtes. En bas, les abrutis qui vous glacent, en haut, les monstres qui vous épouvantent. Par tous les diables, j'ai été à la hauteur de mon public, c'est-à-dire insipide et détestable. La naïveté de ce dépit me réconcilia avec Celio. Je lui dis qu'en qualité d'Italien, de compatriote, je réclamais contre son arrêt, que je ne l'avais point écouté froidement et que j'avais protesté contre la rigueur du public. À cette ouverture, il leva la tête, me regarda en face et venant à moi la main ouverte, « Ah oui, dit-il, c'est vous qui étiez à l'avant-scène dans la loge de la duchesse de... Oui, vous m'avez soutenu, je l'ai remarqué. Cecilia Boccaferri, ma bonne camarade, y a fait attention aussi. C'est un ridal de duchesse. Elle aussi m'a abandonné, mais vous luttiez jusqu'au dernier moment. Eh bien, touchez-la, allez, je vous remercie. Il paraît que vous êtes artiste aussi, que vous avez du talent, du succès. C'est bien de vouloir garantir et consoler ceux qui tombent. Bon, ça vous portera bonheur. Il parlait si vite, il avait un accent si résolu, une cordialité si spontanée, que, bien que choqué de l'expression du corps de garde appliquée à la duchesse, mes récentes amours, je ne pus résister à ses avances, ni rester froid à l'étreinte de sa main. J'ai toujours jugé les gens à ce signe. Une main froide me gêne, une main humide me répugne. Une pression saccadée m'irrite, une main qui ne prend que du bout des doigts me fait peur. Mais une main souple et chaude, qui sait presser la mienne bien fort sans la blesser, et qui ne craint pas de livrer à une main virile le contact de sa paume entière, m'inspire une confiance et même une sympathie subite. Certains observateurs des variétés de l'espèce humaine s'attachent au regard, d'autres à la forme du front, ceux-ci à la qualité de la voix, ceux-là au sourire, d'autres enfin à l'écriture, etc. Moi, je crois que tout l'homme est dans chaque détail de son être et que toute action ou aspect de cet être est un indice révélateur de sa qualité dominante. Il faudrait donc tout examiner si on en avait le temps, mais dès l'abord, j'avoue, je suis pris ou repoussé par la première poignée de main. Je m'assis auprès de Celio et tâchai de le consoler de son échec en lui parlant de ses moyens et des parties incontestables de son talent. Bon, ne me flattez pas, m'épargnez pas, s'écria-t-il avec franchise. J'ai été mauvais, j'ai mérité de faire naufrage. Mais ne me jugez pas, je vous en supplie, sur ce misérable début. Bon, je vaux mieux que cela. Seulement, voilà, je ne suis pas assez vieux pour être bon à froid. Il me faut un auditoire qui me porte, et j'en ai trouvé un ce soir, dès le commencement, n'a fait que me supporter. J'ai été froissé et contrarié avant l'épreuve, au point d'entrer en scène épuisé, frappé d'un sombre pressentiment. La colère est bonne quelquefois, mais il la faut simultanée à l'opération de la volonté. La mienne n'était pas encore assez refroidie, n'était plus assez chaude, et j'ai succombé. Oh, ma pauvre mère, si tu avais été là, tu m'aurais électrisé par ta présence, et je n'aurais pas été indigne de la gloire de porter ton nom. Allez, dors bien sous les cyprès, chère sainte. Dans l'état où me voici, c'est la première fois que je me réjouis de ce que tes yeux sont fermés pour moi. » Et une grosse larme coula sur la joue ardente du beau Cellio. Sa sincérité, ce retour enthousiaste vers sa mère, son expansion devant moi effaçaient le mauvais effet de son attitude sur la scène. Je me sentis attendri, je sentis que je l'aimais. Puis, en voyant de près combien sa beauté était vraie, son accent pénétrant et son regard sympathique, je pardonnai à la duchesse de l'avoir aimé 2 jours, et je ne lui pardonnais pas de ne plus l'aimer. Il me restait à savoir s'il était aimé aussi de Cecilia Boccaferri. Elle sortit de sa toilette et vint s'asseoir entre nous deux, nous prit la main à l'un et à l'autre, et s'adressant à moi, « C'est la première fois que je vous serre la main, dit-elle, mais c'est de bon cœur. Vous venez consoler mon pauvre Cellio, mon ami d'enfance, le fils de ma bienfaitrice, et c'est presque une sœur qui vous en remercie. Au reste, je trouve cela tout simple de votre part. Je sais que vous êtes un noble esprit et que les vrais talents ont la bonté et la franchise en partage. Écoute, Cellio, ajouta-t-elle, comme frappé d'une idée soudaine, va quitter ton costume dans ta loge. Il est temps, moi j'ai quelques mots à dire à M. Salentini. Allez, tu reviendras me prendre et nous partirons ensemble. » Cellio sortit sans hésiter et d'un air de confiance absolue. Était-il sûr à ce point de la fidélité de sa maîtresse? Ou bien n'était-il pas l'amant de Cecilia? Et pourquoi l'aurait-il été? Pourquoi en avais-je la pensée lorsque ni elle ni lui ne l'avaient peut-être jamais eue? Tout cela s'agitait confusément et rapidement dans ma tête. Je tenais toujours la main de Cecilia dans la mienne. Je l'y avais gardée. Elle ne paraissait pas le trouver mauvais. J'interrogeais les fibres mystérieuses de cette petite main, assez ferme, légèrement attiédie et particulièrement calme, tout en plongeant dans les yeux noirs, grands et graves de la cantatrice. Mais l'œil et la main d'une femme ne se pénètrent pas si aisément que ceux d'un homme. Ma science d'observation et ma délicatesse de perception m'ont souvent trahi ou éclairé selon le sexe. Par un mouvement très naturel pour relever son châle, la Boccaferri me retira sa main dès que nous fûmes seuls, mais sans détourner son regard du mien. « Monsieur Salentini, dit-elle, vous faites la cour à la duchesse de X, et vous avez été jaloux de Cellio, mais vous ne l'êtes plus, n'est-ce pas? Vous sentez bien que vous n'avez pas sujet de l'être. » « Bon, je ne suis pas du tout certain que je n'eusse pas sujet d'être jaloux de Cellio, si je faisais la cour à la duchesse. » répondis-je en me rapprochant un peu de la Boccaferri. Mais je puis vous dire que je ne suis pas jaloux parce que je n'aime pas cette femme. » Cecilia baissa les yeux, mais avec une expression de dignité et non de trouble. Je ne vous demande pas vos secrets, dit-elle. Je n'ai pas cette indiscrétion. Rien là-dedans ne peut exciter ma curiosité, mais je vous parle franchement. Je donnerais ma vie pour Celio. Oh, je sais que certaines femmes du monde sont très dangereuses. Je l'ai vue avec peine aller chez quelques-unes. J'avais prévu que sa beauté lui serait funeste, et peut-être son malheur d'aujourd'hui est-il le résultat de quelques intrigues de coquettes, de quelques jalousies fomentées à dessein. Vous connaissez le monde mieux que moi, mais j'y vais quelquefois chanter, et j'observe sans en avoir l'air. Eh bien, j'ai vu ce soir Célio chuter par des gens qui lui promettaient chaudement hier de l'applaudir, et j'ai cru comprendre certains petits drames dans les loges qui nous avoisinaient. Ben, j'ai remarqué aussi votre générosité. J'en ai été vivement touché. Celio, depuis le peu de temps qu'il est à Vienne, s'est déjà fait des ennemis. Ben, je ne suis pas en position de l'en préserver, mais lorsque l'occasion se présente pour moi de lui assurer et de lui conserver une noble amitié, je ne veux pas la négliger. Celio n'a point aspiré à plaire à la duchesse. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, signor Salentini. Et ce que je puis vous affirmer sur l'honneur, car Celio n'a point de secret pour moi, et je l'ai interrogé sur ce point-là, il n'y a qu'un instant, comme vous entriez ici. Chacun sait plus ou moins la figure que tâche de ne pas faire un homme qui trouve occupée la place qu'il venait pour conquérir. Je fis de mon mieux pour que mon désappointement ne parût pas. « Bonne Cécilia, répondis-je, je vous déclare que cela ne serait parfaitement égal, et je permets à Celio d'être aujourd'hui ou de jamais être l'amant de la duchesse, sans que cela change rien à ma sympathie pour lui, à mon impartialité comme dilettante, à mon zèle comme ami. Oui, je serai son ami de bon cœur, puisqu'il est le vôtre, car vous êtes une des personnes que j'estime le plus. Vous l'avez compris, vous, puisque vous venez de me livrer sans détour le secret de votre cœur, et je vous en remercie. » Mais le secret de mon cœur, dit la Bocca Ferri d'un ton de sincérité qui me pétrifia. Mais quel secret? Mais êtes-vous donc distraite à ce point que vous m'ayez dit, sans le savoir, votre amour pour Celio, ou que vous l'ayez déjà oublié? La Bocca Ferri se mit à rire. C'était la première fois que je la voyais rire, et le rire est aussi un indice à étudier. Sa figure grave et réservée ne semblait pas faite pour la gaieté, et pourtant cet éclair d'enjouement l'éclaira d'une beauté que je ne lui connaissais pas. C'était le rire franc, bref et harmonieusement rythmé, d'une petite fille épanouie et bonne. « Oui, oui, dit-elle, il faut que je sois bien distraite pour m'être exprimée comme je l'ai fait sur le compte de Celio, sans songer que vous alliez prendre le charge et me supposer amoureuse de lui, mais qu'importe. Il y aurait de la pédanterie de ma part à m'en défendre, lorsque cela doit vous paraître très naturel et très indifférent. » « Très naturel, c'est possible. » « Très indifférent, c'est possible encore, mais je vous prie cependant de vous expliquer. » Et je pris le bras de Cecilia avec une brusquerie involontaire, dont je me repentis tout à coup, car elle me regarda d'un air étonné, comme si je venais de la préserver d'une brûlure ou d'une araignée. Je me calmai aussitôt et j'ajoutai: « Oui, je tiens à savoir si je suis assez votre ami pour vous m'ayez confié votre secret, ou si je ne le suis assez peu pour qu'il vous soit indifférent à vous de n'être pas connu de moi. » « Ni l'un ni l'autre, répondit-elle. Si j'avais un tel secret, j'avoue que je ne vous le confierais pas sans vous connaître et vous éprouver davantage. Mais n'ayant point de secret, j'aime mieux que vous me connaissiez tel que je suis. Je vais vous expliquer mon dévouement pour Celio, et d'abord je dois vous dire Concilio a deux sœurs et un jeune frère, pour lesquels je me découvrirai encore davantage, parce qu'il pourrait avoir plus besoin que lui des services et de la solitude d'une femme. Oh oui, si j'avais un sort indépendant, je voudrais consacrer ma vie à remplacer la Fiorani auprès de ses enfants, car l'être que j'aime de passion et d'enthousiasme, c'est un nom, c'est une morte, c'est un souvenir sacré, c'est la grande et bonne Lucrezia Fiorani. Je pensais, malgré moi, à la duchesse, qui une heure auparavant avait motivé son engouement pour Celio par une ancienne relation d'amitié avec sa mère. La duchesse avait 30 ans, comme la Boccarleri. La Fiorani était morte à 40, absolument retirée du théâtre et du monde depuis 12 ou 14 ans. Ces deux femmes l'avaient-elles beaucoup connue? Je ne sais pourquoi cela me paraissait invraisemblable. Je craignais que le nom de Fiorani ne servît mieux à Celio auprès des femmes qu'auprès du public. Je ne sais pas si mon doute se peignit sur mes traits, ou si Cecilia alla naturellement au-devant de mes objections, car elle ajouta sans transition: « Et pourtant, je ne l'ai vue dans toute ma vie que 5 ou 6 fois, et notre plus longue intimité a été de 15 jours, lorsque j'étais encore une enfant. » Elle fit une pause. Je ne rompis point le silence. Je l'observais. Il y avait comme un embarras douloureux en elle. Mais elle reprit bientôt: « Je souffre un peu de vous dire pourquoi mon cœur a voué un culte à cette femme, mais je présume que je n'ai rien de neuf à vous apprendre là-dessus. Mon père, vous savez, est un homme excellent, une âme ardente, généreuse, une intelligence supérieure. Ou plutôt, vous ne savez guère cela. Ce que vous savez, comme tout le monde, c'est qu'il a toujours vécu dans le désordre, dans l'incurie, dans la misère. Il était trop aimable pour n'avoir pas beaucoup d'amis. Il s'en faisait tous les jours parce qu'il plaisait, mais il n'en conserva jamais aucun parce qu'il était incorrigible et que leur secours ne pouvait le guérir de son imprévoyance et de ses illusions. Lui et moi, nous devons de la reconnaissance à tant de gens que la liste serait trop longue, mais une seule personne a droit de notre part à une éternelle adoration. Seule entre tous, seule au monde, la Fiorani ne se rebuta pas de nous sauver tous les ans, et quelquefois plus souvent. Inépuisable en patience, en tolérance, en compréhension, en largesse, elle ne méprisa jamais mon père, elle ne l'humilia jamais de sa pitié ni de ses reproches. Jamais ce mot amer et cruel ne sortit de ses lèvres. Ce pauvre homme avait du mérite, la misère l'a dégradé. Non, la Fiorani disait: Jacopo Giocafferi aura beau faire, il sera toujours un homme de cœur et de génie. Et c'était vrai, mais pour comprendre cela, il fallait être la pauvre fille de Boccaferri ou la grande artiste Lucrezia. Pendant 20 ans, c'est-à-dire depuis le jour où elle le rencontra jusqu'à celui où elle cessa de vivre, elle le traita comme un ami dont on ne doute point. Elle était bien sûre au fond du cœur que ses bienfaits ne l'enrichiraient pas et que chaque dette criante qu'elle acquittait ferait naître d'autres dettes semblables. Mais elle continua, ne s'arrêta jamais. Mon père n'avait qu'un mot à lui écrire, l'argent arrivait à point, et avec l'argent, la consolation, le bienfait de l'âme, et quelques lignes si belles, si bonnes. Je les ai tous conservés, comme s'érodique ces précieux billets. Le dernier disait: « Courage, mon ami, cette fois-ci, la destinée vous sourira, et vos efforts ne seront pas vains, j'en suis sûr. Ah, moi, c'est pour moi la Cecilia, et comptez toujours sur votre vieille amie. Voyez quelle délicatesse et quelle science de la vie. Oh, c'était bien la centième fois qu'elle lui parlait ainsi. Elle l'encourageait toujours, et grâce à elle, elle entreprenait toujours quelque chose. Cela ne devrait point, cela ne durait point et causait de nouveaux abîmes. Mais sans cela, il serait mort sur un fumier où il vit et il vit encore. Il peut encore se sauver. Oui, la Fleurani m'a légué son courage. Sans elle, j'aurais peut-être moi-même douté de mon père, mais j'ai toujours foi en lui, grâce à elle. Il est vieux, oui, mais il n'est pas fini. Son intelligence et sa fierté n'ont rien perdu de leur énergie. Je ne puis le rendre riche comme il le faudrait à un homme d'une imagination si féconde et si ardente, mais je puis le préserver de la misère et de l'abattement. Oh, je ne le laisserai pas tomber. Je suis forte. La Boccaferri parlait d'un feu extraordinaire, quoique ce feu fût encore contenu par une habitude de dignité calme. Elle se transformait à mes yeux, ou plutôt, elle me révélait ces trésors de l'âme que j'avais toujours pressentis en elle. Je pris sa main très franchement cette fois, et je la baisai sans arrière-pensée. « Vous êtes une noble créature, lui dis-je. Je le savais bien, je suis fier de l'effort que vous daignez faire pour m'avouer cette grandeur que vous cachez aux yeux du monde, comme les autres cachent la honte de leur petitesse. Parlez, parlez encore. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous me faites, à moi qui suis né pour croire et pour aimer, mais que le monde extérieur contriste et alarme perpétuellement. Mais je n'ai plus rien à vous dire, mon ami. La Florani n'est plus, mais elle est toujours vivante dans mon cœur. Son fils aîné commence la vie et tâte le terrain de la destinée d'un pied hasardeux, téméraire peut-être. Est-ce à moi de douter de lui? Oh, mais qu'il soit ambitieux, imprudent, impuissant même dans les arts, qu'il se trompe mille fois, qu'il devienne coupable envers lui-même. Je veux l'aimer et le servir comme si j'étais sa mère. Je puis bien peu de choses, je ne suis presque rien. Mais ce que je peux, ce que je suis, j'en voudrais faire le marchepied de sa gloire, puisque c'est dans la gloire qu'il cherche son bonheur. Vous voyez bien, Salentini, que je n'ai pas ici l'amour en tête. J'ai l'esprit et le cœur forcément sérieux, et je n'ai pas de temps à perdre ni de puissance à dépenser pour la satisfaction de mes fantaisies personnelles. Oh oui, je vous comprends, m'écriai-je. Une vie toute d'abnégation et de dévouement. Oh oui, si vous êtes au théâtre, ce n'est point pour vous. Vous n'aimez pas le théâtre, vous, cela se voit. Vous n'aspirez pas au succès. Vous dédaignez la gloriole. Vous travaillez pour les autres. Je travaille pour mon père, reprit-elle. Et c'est encore grâce à la Fleurani que je peux travailler ainsi. Sans elle, je serais resté ce que j'étais, une pauvre petite ouvrière à la journée, gagnant à peine un morceau de pain pour empêcher son père de mendier dans les mauvais jours. Mais elle m'entendit une fois par hasard et trouva ma voix agréable, et elle me dit que je pouvais chanter dans les salons, même au théâtre, les seconds rôles. Elle me donna un professeur excellent. Je fis de mon mieux. Je n'étais déjà plus jeune, j'avais 26 ans et j'avais déjà beaucoup souffert. Mais je n'aspirais point au premier rang et cela fit que je parvins rapidement à pouvoir occuper le second. J'avais l'horreur du théâtre. Mon père y travaillait comme acteur, comme décorateur, comme souffleur même. Il y a rempli tous les emplois selon les jeux du hasard et de la fortune. Je connaissais de bonne heure cette sentine d'impureté où nulle fille ne peut se préserver de souillure, à moins d'être une martyre volontaire. J'hésitais longtemps, je donnais des leçons, je chantais dans les concerts, mais il n'y avait là rien d'assuré. Je manque d'audace, je n'entends rien à l'intrigue. Ma clientèle, fort bornée et fort modeste, m'échappait à tout moment. Et la Fiorani mourut presque subitement. Je sentis que mon père n'avait plus que moi pour appui. Je franchis le pas. Je surmontais mon aversion pour ce contact avec le public qui viole la pureté de l'âme et flétrit le sanctuaire de la pensée. Et je suis actrice depuis 3 ans. Je le serai tant qu'il plaira à Dieu. Ce que je souffre de cette contrainte de tous mes goûts, de cette violation de tous mes instincts, je ne le dis à personne. À quoi bon se plaindre? Chacun n'a-t-il pas son fardeau? J'ai la force de porter le mien. Je fais mon métier en conscience. J'aime l'art. Je mentirais si je n'avouais pas que je l'aime de passion. Mais j'aurais aimé à cultiver le mien dans des conditions toutes différentes. J'étais né pour tenir l'orgue dans un couvent de nonnes et pour chanter la prière du soir aux échos profonds et mystérieux d'un cloître. Qu'importe, allez, ne parlons plus de moi, c'est trop. Nabok Kaferi essuyait rapidement une larme furtive et me tendit la main en souriant. Je me sentis hors de moi. Mon heure était venue. J'aimais. Chapitre 4. Flânerie. Elle s'était levée pour partir. Elle ramena son châle sur ses épaules. Elle était mal mise, affreusement mise, comme une actrice pauvre et fatiguée qui s'est débarrassée à la hâte de son costume et qui s'enveloppe avec joie d'une robe de chambre chaude et ample pour s'en aller à pied par les rues. Elle avait un voile noir très fané sur la tête et de gros souliers aux pieds parce que le temps était à la pluie. Elle cachait ses jolies mains. Oh, je me rappelle ce détail exactement. Dans de vilains gants tricotés. Elle était très pâle, même un peu jaune, comme j'ai remarqué depuis qu'elle le devenait quand on la forçait à remuer la cendre qui couvrait le feu de son âme. Probablement elle eût été moins belle que laide pour tout autre que moi en ce moment-là. Eh bien, je la trouvais, pour la première fois de ma vie, la plus belle femme que j'eusse encore contemplée. Et elle l'était, en effet, j'en suis certain. Ce mélange de désespoir et de volonté, de dégoût et de courage, cette abnégation complète dans une nature si énergique et par conséquent si capable de goûter la vie avec plénitude, cette flamme profonde, cette mémoire endolorie, voilée par un sourire de douceur naïve, la faisait resplendir à mes yeux d'un éclat singulier. Elle était devant moi comme la douce lumière d'une petite lampe qu'on viendrait d'allumer dans une vaste église. D'abord, ce n'est qu'une étincelle dans les ténèbres, et puis la flamme s'alimente, la clarté s'épure, l'œil s'habitue et comprend, tous les objets s'illuminent peu à peu. Chaque détail se révèle sans que l'ensemble perde rien de sa lucidité transparente et de son austérité mélancolique. Au premier moment, on eût pu marcher sans se heurter dans ce crépuscule, et puis voilà qu'on peut lire à cette lampe du sanctuaire et que les images du temple se colorent et flottent devant vous comme des êtres vivants. La vue augmente à chaque seconde comme un sens nouveau, perfectionné, satisfait, idéalisé par ce suave aliment d'une lumière pure, égale et sereine. Cette métaphore, longue à vrai dire, mais me vint rapidement et complète dans la pensée. Comme un peintre que je suis, je vis le symbole avec les yeux de l'imagination en même temps que je regardais la femme avec les yeux du sentiment. Je m'élançais vers elle, je l'entourais de mes bras en m'écriant follement « Fiat lux, aimons-nous et la lumière sera !» Mais elle ne me comprit pas, ou plutôt, elle n'entendit pas mes sottes paroles. Elle écoutait un bruit de voix dans la loge voisine. « Oh mon Dieu !» me dit-elle. « Voici mon père qui se querelle avec Celio. Allons vite les distraire. » Mon père sort du café, où il est très animé à cette heure-ci, et Celio n'est guère disposé à entendre une théorie sur le néant de la gloire. « Allez, venez, mon ami !» Elle s'empara de mon bras et courut à la loge de Celio. Il devait se passer bien du temps avant l'occasion de lui dire mon amour se retrouva. Le vieux Boccaferri était fort débraillé et à moitié ivre, ce qui lui arrivait toujours quand il n'était pas tout à fait. Celio, tout en se lavant la figure avec de la pâte de concombre, frappait du pied avec fureur. « Oui, disait Boccaferri, je te répéterai quand même, tu devrais m'étrangler. C'est ta faute, t'as été mauvais, archi mauvais. Je te savais bien mauvais, mais je te croyais pas encore capable d'être aussi mauvais que tu l'as été ce soir. Mais est-ce que je ne le sais pas que j'ai été mauvais, mauvais ivrogne que vous êtes ?» s'écria Celio en roulant sa serviette convulsivement pour la lancer à la figure du vieillard. Mais en voyant paraître Cecilia, il atténua ce mouvement dramatique et la serviette vint tomber à nos pieds. « Cecilia, reprit-il, délivre-moi ton fléau de père. Ce vieux fou m'apporte le coup de pied de l'âne. Qui me laisse tranquille ou je jette par la fenêtre. » Cette violence de Celio sentait si fort le cabotin que j'en fus révolté. Mais la paisible Cecilia n'en parut ni surprise ni émue. Comme une salamandre habituée à traverser le feu, comme un hautonnier familiarisé avec la tempête, elle se glissa entre les deux antagonistes, prit leurs mains et les força à se joindre en disant « Mais pourtant, vous vous aimez. Si mon père est fou ce soir, c'est de chagrin. Si Celio est méchant, c'est qu'il est malheureux. Mais il sait bien que c'est son malheur qui fait déraisonner son vieil ami. » Boccaferri se jeta au cou de Celio et le pressa dans ses bras. « Le ciel m'est témoin, s'écria-t-il, que je t'aime presque autant que ma propre fille. » Et il se mit à pleurer. Ses larmes venaient à la fois du cœur et de la bouteille. Celio haussa les épaules tout en l'embrassant. « C'est que, vois-tu, reprit le vieillard, toi, ta mère, tes sœurs, ton jeune frère, ben je voudrais vous placer dans le ciel avec une auréole, une couronne d'éclairs au front, comme des dieux. Et voilà que tu fais un fiasco horribile pour ne pas m'avoir consulté. » Il déraisonna pendant quelques minutes, puis ses idées s'éclaircirent en parlant. Il dit d'excellentes choses sur l'amour de l'art, sur la personnalité malentendue qui nuit à celle du talent. Il appelait cela la personnalité de la personne. Il s'exprima d'abord en termes heurtés, bizarres, obscurs, mais à mesure qu'il parlait, l'ivresse se dissipait. Il devenait extraordinairement lucide. Il trouvait même des formes agréables pour faire accepter sa critique au récalcitrant Celio. Il lui dit à peu près les mêmes choses quant au fond que j'avais dites à la duchesse, mais il les dit autrement et mieux. Je vis qu'il pensait comme moi, ou plutôt que je pensais comme lui, et qu'il résumait devant moi ma propre pensée. Je n'avais jamais voulu faire attention aux paroles de ce vieillard dont le désordre me répugnait. Oh, je m'aperçus ce soir-là qu'il avait de l'intelligence, de la finesse, une grande science de la philosophie, de l'art, et que par moments il trouvait des mots qu'un homme de génie n'aurait pas désavoués. Celio l'écoutait, l'oreille basse, se défendant mal et montrant avec la naïveté généreuse qui lui était propre qu'il était convaincu en dépit de lui-même. L'heure s'écoulait, on éteignait jusque dans les couloirs et les portes du théâtre allaient se fermer. Boccaferri était partout chez lui, avec cette admirable insouciance qui est une grâce d'État pour les débauchés. Il eût couché sur les planches ou bavardé jusqu'au jour sans s'aviser de la fatigue d'autrui plus que de la sienne propre. Cecilia le prit par le bras pour l'emmener, nous dit adieu dans la rue, et je me trouvai seul avec Celio, qui se sentait trop agité pour dormir et voulut me reconduire jusqu'à mon domicile. Quand je pense, me disait-il, que je suis invité à souper ce soir dans 10 maisons, et qu'à l'heure qu'il est, toutes mes connaissances sont censées me chercher pour me consoler. Mais personne ne s'impatiente après moi, personne ne regrettera mon absence, et je n'ai pas un ami qui m'ait bien cherché, car j'étais dans la loge de Cecilia, et en ne me trouvant pas dans la mienne, on n'essayait même pas de savoir si j'étais de l'autre côté de la cloison. Et à travers cette cloison maudite, j'ai entendu des mots qui devront me faire réfléchir. Il est déjà parti. Il est donc désespéré. Pauvre diable! Oh, ma foi, je m'en vais. Je lui laisse ma carte. J'aime autant l'avoir manqué ce soir, etc. Mais oui, c'est ainsi que mes bons et fidèles amis se parlaient l'un à l'autre. Et je me tenais quoi, moi, enchanté de les entendre partir. Mais votre duchesse, qui devait m'envoyer prendre par son Sigismée avec sa voiture, n'avait pas eu la peine de refuser son thé. Vous en tenez pour cette duchesse, vous. Vous avez grand tort, c'est une dévergondée. Attendez d'avoir un fiasco dans votre art, et vous m'en direz des nouvelles. Au reste, cela ne m'a pas trompé. Dès le premier jour, j'ai vu qu'elle faisait passer son monde sous la toise, et que pour avoir les grandes entrées chez elle, il fallait avoir son brevet de grand homme à la main. Je ne sais, répondis-je, si c'est le dépit ou l'habitude qui vous rend cynique. Celio, mais vous l'êtes, et c'est une tâche en vous. À quoi bon un langage si acerbe? Je ne voudrais pas qualifier de dévergondé une femme dont j'aurais à me plaindre. Or, comme je n'ai pas ce droit-là, et que je ne suis pas amoureux de la duchesse le moins du monde, je vous prie d'en parler froidement et poliment devant moi. Vous me ferez plaisir et je vous estimerai davantage. « Écoutez, Salentini, reprit vivement Celio, vous êtes prudent et vous tournoyez à travers le monde comme tant d'autres. Je ne crois pas que vous ayez raison. Du moins, ce n'est pas mon système. Il faut être franc pour être fort, et moi je veux exercer ma force à tout prix. Si vous n'êtes pas l'amant de la duchesse, c'est que vous ne l'avez pas voulu, car, pour mon compte, je sais que j'aurais été. » Si cela eût été de mon goût. Je sais ce qu'elle m'a dit de vous au premier mot de galanterie que je lui ai adressé. Et je le faisais par manière d'amusement, par curiosité pure, je vous l'atteste. Je regardais une jolie esquisse que vous avez faite d'après elle et qu'elle a mise richement encadrée dans son boudoir. Je trouvais le portrait flatté et je le lui disais, sans qu'elle s'en doutât, en insinuant que cette noble interprétation de sa beauté ne pouvait avoir été trouvée que par l'amour. « Parlez plus bas, me répondit-elle d'un air de mystère. J'ai bien du mal à tenir cet homme-là en bride. » On sonna au même instant. « Oh, mon Dieu, dit-elle, c'est peut-être lui qui force ma porte, sortant d'ici. Oh, je ne veux pas vous faire un ennemi. à la veille de débuter. Oui, répondis-je ironiquement, vous êtes si bonne pour moi que vous le rendriez heureux rien que pour me préserver de sa haine. Et elle crut que c'était une déclaration, et m'arrêtant sur le seuil de son boudoir. Mais que dites-vous là? S'écria-t-elle. Si vous ne craignez rien pour vous, je ne crains pour moi que l'ennui qu'il me cause. Mais qu'il vienne, qu'il se fâche, restons. C'était charmant, n'est-ce pas, monsieur Salentini? Mais je ne restais point. J'attendais cette belle dame à l'épreuve de mon succès ou de ma chute. Si vous voulez venir avec moi chez elle, nous rirons. Tenez, voulez-vous? Non, monsieur Liot, ce n'est pas avec les femmes que je veux faire de la force. Les coquettes surtout n'en valent pas la peine. L'ironie du dépit les flatte plus qu'elle ne les mortifie. Ma vengeance, si vengeance il y a, c'est la plus grande sérénité d'âme dans ma conduite avec celle-ci désormais. Allons, vous êtes meilleur que moi. Il est vrai que vous n'avez pas été chuté ce soir, ce qui est fort malsain, je vous jure, et crispe les nerfs horriblement, mais il me semble que vous êtes un calmant pour moi. Ne trouvez pas le mot blessant. Un esprit qui nous calme est souvent un esprit qui nous domine, et il se peut que le calme soit la plus grande des forces de la nature. C'est celle qui produit, lui dis-je. L'agitation, c'est l'orage qui dérange et bouleverse. Oui, comme vous voudrez, reprit-il. Il y a temps pour tout, et chaque chose a son usage. Peut-être que l'union de deux natures aussi opposées que la vôtre et la mienne ferait une force complète. Je veux devenir votre ami. Je sens que j'ai besoin de vous, car vous saurez que je suis égoïste et que je ne commence rien sans me demander ce qui m'en reviendra, mais c'est dans l'ordre intellectuel et moral que je cherche mes profits. Dans les choses matérielles, je suis presque aussi prodigue et insouciant que le vieux Boccaferri, lequel serait le premier des hommes si le genre humain n'était pas la dernière des races. Tenez, il a raison, ce Boccaferri. Et j'avais tort de ne pas vouloir supporter son insolence tout à l'heure. Ben, il m'a dit la vérité. J'ai perdu la partie parce que j'étais au-dessous de moi-même. Là-dessus, j'étais d'accord avec lui. Mais j'ai été au-dessous de mon propre talent et j'ai manqué l'inspiration parce que jusqu'ici, j'ai fait fausse route. Un talent sain et dispos est toujours prêt pour l'inspiration. Mais le mien est malade et il faut que je le remette au régime. Voilà pourquoi je suivrai son conseil et n'écouterai pas celui que votre politesse me donnait. Je ne tenterai pas une seconde épreuve avant de m'être retrempé. Il faut que je sois à l'abri de ces défaillances soudaines, et pour cela je dois envisager autrement la philosophie de mon art. Il faut que je revienne aux leçons de ma mère, que je n'ai pas voulu suivre, mais que je garde écrites en caractère sacré dans mon souvenir. Ce soir, le vieux Boccaferri a parlé comme elle, et la paisible Cecilia, cette froide artiste qui n'a jamais ni blâme ni éloge pour ce qui l'entoure, oui, la vieille Cecilia, a glissé, comme point d'orgue aux théories de son père, deux ou trois mots qui m'ont fait une grande impression, bien que je n'ai pas eu l'air de les entendre. Mais pourquoi l'appelez-vous la vieille Cecilia, mon cher Celio? Elle n'a que bien peu d'années de plus que vous et moi. Ouais, c'est une manière de dire, une habitude d'enfance, un terme d'amitié, si vous voulez. Je l'appelle mon vieux fer. C'est un sobriquet tiré de son nom et qui ne la fâche pas. Elle a toujours été en avant de son âge, triste, raisonnable et prudente. Quand j'étais enfant, j'ai joué quelquefois avec elle dans les grands corridors des vieux palais. Elle me scellait toujours, ce qui me la faisait croire aussi vieille que ma bonne, quoiqu'elle fût alors une jolie fille. Nous nous sommes bien connus et rencontrés souvent que depuis la mort de ma mère, c'est-à-dire depuis qu'elle est au théâtre et que je suis sorti du nid où j'ai été couvé si longtemps et avec tant d'amour. Oh, j'ai déjà pas mal connu le monde et couru le monde depuis 2 ans. J'étais arriéré en fait d'expérience. J'étais avide d'en acquérir et je me suis dénoué vite. Le furieux besoin que j'avais de vivre par moi-même m'a étourdi d'abord sur ma douleur, car j'avais une mère telle qu'aucun homme n'en a eu une semblable. Elle me portait encore dans son cœur, dans son esprit, dans ses bras, sans s'apercevoir que j'avais 22 ans. Et moi, je ne m'en apercevais pas non plus, tant je me trouvais bien ainsi. Mais elle est partie pour le ciel. J'ai voulu courir, bâtir, posséder sur la terre. Déjà je suis fatigué, j'ai encore les mains vides. C'est maintenant que je sens réellement que ma mère me manque. C'est maintenant que je la pleure, que je crie après elle dans la solitude de mes pensées. Eh bien, dans cette solitude effrayante, toujours navrante parfois, pour un homme habitué à l'amour exclusif et passionné d'une mère, il y a un être qui me fait encore un peu de bien, et auprès duquel je respire de toute la longueur de mon haleine. C'est la Bocca Ferri. Voyez-vous, Salentini, je vais vous dire une chose qui vous étonnera, mais pesez-la et vous la comprendrez. Je n'aime pas les femmes. Je les déteste et je suis affreusement méchant avec elles. J'en accepte une seule, la Bocca Ferri, parce que seule, elle ressemble par certains côtés à ma mère, à la femme qui est la cause de mon aversion pour toutes les autres. Comprenez-vous cela? Parfaitement, Celio. Votre mère ne vivait que pour vous, et vous vous étiez habitué à la société d'une femme qui vous aimait plus qu'elle-même. Oh, vous ne savez pas à qui vous parlez, Celio, et quelle souffrance, tout opposée, ce nom de mère réveille dans mon cœur. Plus mon enfance a différé de la vôtre, mieux je vous comprends, ô enfant gâté, insolent et beau comme le bonheur. Aussi tant qu'a duré votre virginale expérience, vous avez cru que la femme était l'idéal du dévouement, que l'amour de la femme était bien suprême pour l'homme, enfin, qu'une femme ne servait qu'à nous servir, à nous adorer, à nous garantir, à écarter de nous le danger, le mal, la peine, le souci, et jusqu'à l'ennui, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est cela, s'écria le Célio en s'arrêtant et en regardant le ciel. L'amour d'une femme, oh, c'était dans mon attente la lumière splendide et palpitante d'une étoile qui ne défaille et ne pâlit jamais. Ma mère m'aimait comme un astre verse le feu qui féconde. Auprès d'elle, j'étais une plante vivace, une fleur aussi pure que la rosée dont elle me nourrissait. Je n'avais pas une mauvaise pensée, pas un doute, pas un désir. Je ne me donnais pas la peine de vivre par moi-même dans les moments où la vie eût pu me fatiguer. Elle souffrait pourtant. Elle mourait, rongée par un chagrin secret. Et moi, misérable, je ne le voyais pas. Si je l'interrogeais à cet égard, je me laissais rassurer par ses réponses. Je croyais à son divin sourire. Je la tenais à ma teint inanimée dans mes bras. Je la rapportais dans sa maison, la croyant évanouie. Elle était morte, morte, et j'embrassais son cadavre. Celio s'assit sur le parapet d'un pont que nous traversions en ce moment-là. Un cri de désespoir et de terreur s'échappa de sa poitrine, comme si une apparition eût passé devant lui. Je vis bien que ce pauvre enfant ne savait pas souffrir. Je craignis que ce souvenir réveillé et envenimé par son récent désastre ne devînt trop violent pour ses nerfs. Je le pris par le bras et je l'emmenai. « Vous comprenez, me dit-il en reprenant le fil de ses idées, comment et pourquoi je suis égoïste. Je ne pouvais pas être autrement, et vous comprenez aussi pourquoi je suis devenu haineux et colère, aussitôt qu'en cherchant l'amour et l'amitié dans le commerce de mes semblables, je me suis heurté et brisé contre des égoïsmes pareils aux miens. Les femmes que j'ai rencontrées, je commence à croire que toutes sont ainsi, n'aiment qu'elles-mêmes, ou si elles nous aiment un peu, c'est par rapport à elles, à cause de la satisfaction que nous donnons à leurs appétits de vanité ou de libertinage. Que nous leur soyons plus bons à rien, elles nous brisent et nous marchent sur la figure. Et vous voudriez que j'eusse du respect pour ces créatures ambitieuses ou sensuelles, qui remarquent que je suis beau et que je pourrais bien avoir de l'avenir. Oh, ma mère m'eût aimé bossu et idiot, mais les autres. Essayez, essayez d'y croire, Salentini, et vous verrez. Mon cher Célio, vous avez raison en général, mais en faveur des exceptions possibles, vous ne devriez pas tant vous hâter de tout maudire. Moi, qui n'ai jamais été gâté, et qui n'ai encore été aimé de personne, j'espère encore, j'attends toujours. Vous n'avez jamais été aimé de personne. Vous n'avez pas eu de mère. Ou la vôtre ne valait pas mieux que vos maîtresses. Pauvre garçon. En ce cas, vous avez toujours été seul avec vous-même. Et il n'y a pas le plus terrible tête à tête. Oh, je voudrais être aimant, Salentini. Je vous aimerais, car ce doit être un grand bonheur que de pouvoir faire le bonheur d'un autre. Étrange cœur que vous êtes, Célio. Oh, je ne vous comprends pas encore, mais je veux vous connaître, car il me semble qu'en dépit de vos contradictions et de votre inconséquence, en dépit de votre prétention à la haine, à l'égoïsme, à la dureté, il y a en vous quelque chose de l'âme qui vous a versé ses trésors. Quelque chose de ma mère, oh, je ne le crois pas. Elle était si humble dans sa grandeur, cette âme incomparable, qu'elle craignait toujours de détruire mon individualité en y substituant la sienne. Elle me développait dans le sens que je lui manifestais. Elle me prenait tel que je suis, sans se douter que je puisse être mauvais. Ah, c'est là aimer, et ce n'est pas ainsi que nos maîtresses nous aiment. Convenez-en. Mais comment se fait-il que, comprenant si bien la grandeur et la beauté du dévouement dans l'amour, vous ne le sentiez pas vivre ou germer dans votre propre sein? Et vous, Salentini, répondit-il en m'arrêtant avec vivacité, que portez-vous et que couvez-vous dans votre âme? Est-ce le dévouement aux autres? Non, c'est le dévouement à vous-même. Car vous êtes artiste. Soyez sincère, je ne suis pas de ceux qui se paient des mots sonores, vulgairement appelés blagues de sentiment. Oh, vous me faites trembler, Célio, lui dis-je, et en me pénétrant d'un examen si froid, vous me feriez douter de moi-même. Laissez-moi jusqu'à demain pour vous répondre, car me voici à ma porte, et je crains que vous ne soyez fatigué. Où demeurez-vous et à quelle heure secouez-vous les pavots du sommeil? Le sommeil, encore une blague, répondit-il. Je suis toujours éveillé. Allez, venez me demander à déjeuner aussitôt que vous voudrez. Voilà ma carte. Il ralluma son cigare au mien et s'éloigna.